Bonsoir. Dans un mémorandum adressé hier mercredi au président de l'Assemblée nationale, les députés du G7 posent le problème de la conduite des débats à la chambre basse du Parlement, de l'opportunité du dialogue et du mode de désignation des membres de la CENI. Selon ces élus nationaux, la procédure suivie pour ces trois dossiers n'est pas conforme aux différentes lois en la matière. Le G7 déplore aussi le débauchage systématique des députés de cette plateforme auquel se livre la majorité présidentielle. Quelle lecture faire de ces mémorandums? Nous en parlons avec le professeur Bruno Lapica, il est député national et secrétaire général de l'ARC, parti membre du G7. Bonsoir, professeur Bruno Lapica.
Bonsoir, monsieur Guy.
Patrick Thierry André Kakwata, député national de la majorité présidentielle, élu de Kolwezi et président du mouvement des réformateurs libéraux, parti de la majorité au pouvoir. Bonsoir, Patrick Thierry André Kakwata.
Bonsoir et merci beaucoup.
Et professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Bonsoir, professeur Alphonse Maïndo.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Une délégation des députés nationaux du G7 a rencontré le président de l'Assemblée nationale hier mercredi. Dans un mémorandum adressé à Aubin Minaku, le G7 pose le problème de la conduite des débats à la Chambre basse, de l'opportunité du dialogue et du mode de désignation des membres de la CENI. Selon ces élus nationaux, la procédure suivie pour ces trois dossiers n'est pas conforme à la loi. L'un d'eux, Mouindou Nzangi, explique leur démarche.
Nous sentons de plus en plus qu'au lieu de rester l'arbitre au milieu du village, le président de l'Assemblée nationale est en train de prendre directement position, ou soit pour répondre aux députés directement s'il le perçoit. La deuxième chose, nous lui avons fait part de nos inquiétudes sur le plan de la désignation des membres de la CENI. Nous avons dit que l'Assemblée nationale ne doit pas rester jouer un rôle passif. Les mandats passés, l'entérinement des candidatures à la CENI ont créé une commission pour examiner si les dossiers déposés par les composantes étaient conformes à la loi. Troisième chose, nous avons bien voulu lui parler de la manière dont nous avons reçu les messages informels du chef de l'État à l'Assemblée nationale. Nous lui avons rappelé que la Constitution dit que le message que le chef de l'État adresse à l'Assemblée nationale, ça doit se faire dans la forme, et la forme prévue par la Constitution. C'est soit un message direct à la nation, soit par une lettre qui est lue à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été fait de cette façon-là, et nous avons considéré que ce message était un message informel. La dernière chose, nous lui avons parlé de notre position sur le dialogue. Nous lui avons rappelé qu'en tant que G7 et député du G7, nous n'allons pas participer à ce dialogue dans le format qui a été proposé par le chef de l'État.
Le président de l'Assemblée nationale s'est félicité de cette rencontre. Pour Aubin Minaku, ce genre d'échange permet de bien recadrer les choses. On l'écoute.
Il y a une majorité non équivoque, il y a une opposition bien établie. Il y a aussi le groupe G7 qui s'est déclaré réellement comme membre de l'opposition. Bon voilà, face à cette situation, il était important que je puisse recevoir les différents groupes parlementaires pour rappeler les principes et définir un modus vivendi adapté au niveau de l'Assemblée nationale pour les mois qui suivent. C'est le travail que je fais depuis hier, mais hier soir j'ai reçu une requête des collègues députés membres du G7. Ils m'ont remis un mémorandum pour que je puisse tenir compte de leurs appréhensions. Il y a eu échange franc, c'est cela la démocratie. Et ça permettra à construire quelque chose de raisonnable au niveau de l'Assemblée nationale pour que nous puissions ensemble, majorité et opposition, prendre en charge tous les dossiers brûlants de l'avenir.
Un dossier signé Mimi Ngumba Mulongo. Professeur Bruno Lapica, je rappelle que vous êtes député national et secrétaire général de l'ARC, parti membre du G7. Vous adressez un mémorandum au président de l'Assemblée nationale dans lequel vous formulez un certain nombre de griefs à son égard. Et parlons d'abord de la conduite des débats. Qu'est-ce que vous reprochez à Aubin Minaku dans la conduite des débats à l'Assemblée nationale?
Écoutez, je suis personnellement d'abord très surpris par la publicité qui est faite autour de cet échange entre collègues. députés à l'Assemblée nationale, en l'occurrence les députés membres du G7 et leur président, l'honorable Aubin Minaku. J'aurais bien voulu que ce type d'échange reste entre les quatre murs du temple de la démocratie, plutôt que de transporter ces échanges sur la place publique.
N'est-ce pas l'opacité que l'on semble reprocher à la classe politique congolaise? Vous faites des choses et vous ne voulez pas les faire savoir à l'opinion?
Non, je pense qu'il y a des choses qui doivent être portées à l'opinion publique, mais il y a des échanges qui sont des échanges internes. Est-ce que c'est opportun d'exposer sur la place publique des informations qui sont considérées comme des échanges entre collègues?
Pourquoi vous semblez banaliser ces informations ou ces problèmes qui sont susceptibles, n'est-ce pas, de bloquer le fonctionnement des institutions du pays?
Bien, je ne banalise pas, mais je ne suis pas d'accord avec la démarche de vouloir faire une grande publicité autour des échanges qui sont des échanges, je dirais, très profonds entre collègues députés.
Alors, qu'est-ce que vous reprochez au président de l'Assemblée nationale dans la tenue des débats?
Il y a beaucoup de choses qu'on reproche au président de l'Assemblée. Il y a beaucoup de choses aussi pour lesquelles on a de l'admiration pour lui. Mais puisque vous voulez insister sur ce qu'on lui reproche, je pense que, puisque cela aussi a été publié dans les journaux de ce matin, c'est que les députés du G7 ont voulu dire à leur président de l'Assemblée qui ne se sentent pas à l'aise par la conduite des débats, dans la mesure où ils constatent que le président de l'Assemblée, qui doit jouer le rôle de gardien du temple, de l'arbitre, veut par moment devenir joueur sur le terrain. Et il a justifié cela par le fait qu'il était non seulement président de l'Assemblée, mais aussi secrétaire général de la majorité, et qu'il était de bonne guerre que de temps en temps il puisse revêtir son maillot de secrétaire général tout en étant président de l'Assemblée nationale. Mais c'est là cette duplicité qui pose problème.
Voilà. Et vous dites qu'il donc en fait qu'il dit que il justifie ces facteurs-là par le fait que il est à la fois président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle. Cela veut dire qu'il reconnaît les griefs qui sont formulés contre lui.
Oui, je crois que j'étais présent à l'échange avec le président de l'Assemblée nationale. Il a considéré certaines critiques comme fondées.
Comme quoi, par exemple?
Il a estimé que, en tant que secrétaire général de la majorité...
Il est partial dans la conduite des débats.
En tant que secrétaire général de la majorité, lorsqu'il est en face d'un député membre du G7 qui s'est déclaré de l'opposition, il est normal qu'il défende l'opposition de la majorité. Et il a même dit que c'est de bonne guerre.
Oui, vous dites que la procédure qui a suivi dans la validation des désignations des membres de la CENI n'a pas permis à l'Assemblée nationale de délibérer effectivement sur les candidats désignés par leurs composantes. Et pourtant, nous avons appris que l'Assemblée nationale a pris acte de la désignation des deux nouveaux membres de la CENI.
Ben, c'était la procédure n'a pas été régulière.
Mais en dépit de ça, vous avez pris acte de cette désignation.
L'Assemblée nationale a pris acte, mais la procédure n'a pas été régulière. La procédure aurait voulu que l'Assemblée nationale mette en place une commission. Une commission qui devrait examiner chaque candidature au regard des critères d'impartialité, de moralité, de technicité, de compétences, etc., etc., de probité, bien sûr.
Et là, vous rappelez ce qui s'est passé à l'époque du Pasteur
Mbonimpa. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous avons eu cette impression, ce n'est même pas une impression, c'est ça qui s'est passé. C'est que les choses se sont déroulées sur un temps, je dirais, qui ferait de l'Assemblée nationale une caisse de résonance et qui n'a pas de rôle à jouer, alors que l'Assemblée nationale a un pouvoir de contrôle.
Oui, vous déplorez aussi le débauchage systématique de vos députés, la déstabilisation de vos partis politiques, et qui serait, selon vous, l'effet de la majorité présidentielle sous l'autorité de ce secrétaire général. Vous avez des faits sur lesquels vous étayez ces affirmations? Parce que hier, nous avons reçu un des communicateurs de la majorité présidentielle dans cette émission, M. Dieudonné Moinzé, qui estime que les phénomènes auxquels on assiste maintenant dans les partis membres du G7, c'est en fait le reflet des crises au sein de ces partis politiques. Ça n'a rien à voir avec la majorité présidentielle.
Non, je pense qu'il faut, nuancer cette assertion. C'est que ce qui étonne, c'est que voilà, je parlerai peut-être de l'arc plus tard, mais maintenant, si nous prenons le cas du MSR, voilà des députés qui sont restés solidaires à leur président national depuis le déclenchement du mouvement G7, qui participe au congrès, n'est-ce pas, à l'ouverture du congrès, et puis tout à coup, ces députés viennent déclarer qu'ils ne sont plus d'accord. Mais n'importe quel commun des mortels ne peut voir qu'une manipulation.
Mais les frondeurs dont vous parlez reprochent au président de vos partis politiques d'avoir pris des engagements à l'insu, n'est-ce pas, des membres de ces partis politiques. C'est pourquoi ils se sont désolidarisés des engagements que les présidents ont pris sans avoir au préalable consulté les partis politiques.
Alors, ben, je pense que c'est une lecture, hein, une lecture qui est propre à ceux qui font ce genre de déclaration. Je ne le dirai pas de mon parti ARC, mais je pense qu'au niveau de l'ARC, le comité directeur a été saisi, et le comité directeur a été informé, et le comité directeur a accompagné l'autorité morale pour prendre la décision d'écrire la lettre et de dénoncer ce qu'il faut dénoncer, d'accompagner ce qu'il faut accompagner. Je dois vous dire, et la preuve, c'est que lorsqu'on parle de l'ARC qui a signé, mais il y a des lettres que moi-même j'ai signées en tant que secrétaire général. Donc on ne peut pas dire que le parti n'était pas informé, puisque j'ai signé moi-même des lettres.
Merci. Alors, merci.
Peut-être qu'il y a, je voudrais ajouter un aspect. C'est pas par hasard lorsque nous parlons de la manipulation ou du débauchage. Mais lorsque vous voyez dans le cadre de l'ARC des membres du parti qui signent des procès-verbaux des réunions du comité directeur et qui tout à coup se désengagent.
Merci, honorable.
Et sont pris en charge par des instances
Merci,
du Parlement.
Merci, je vous redonne la parole, honorable.
Merci.
Patrick Thierry André Kakwata Ngunza, vous êtes député national de la majorité présidentielle élu des Kolwezi et président du mouvement des réformateurs libéraux, parti de la majorité au pouvoir. Comment vous réagissez au mémorandum des députés du G7 dans lequel il fustige notamment le manque de neutralité du président de l'Assemblée nationale et la violation du règlement intérieur au sujet de la conduite des débats?
Oui, merci beaucoup. Je tiens d'abord à saluer, à féliciter mon collègue Lapika, qui j'ai pu suivre tout à l'heure et je le connais très parfaitement sur l'honnêteté intellectuelle qu'il a. C'est tout à fait normal que ce mémorandum puisse avoir lieu ou être déposé auprès du président de l'Assemblée nationale, d'autant plus que nous sommes dans une démocratie et le travail humain étant perfectible, il n'y a pas un homme parfait sur la terre, il y a toujours aussi des petites imperfections, mais que cela ne tienne, les critiques sont toujours les bienvenues. Et d'ailleurs, l'homme le plus grand sur la terre, c'est celui qui accepte d'être critiqué. Alors c'est tout à fait normal, comme ils ont déposé leur mémorandum et qu'ils ont pu critiquer la gestion du président de l'Assemblée, maintenant, pour moi, je peux conseiller le président de l'Assemblée de bien vouloir accepter ces critiques et de s'amender et de, d'améliorer si réellement il y a eu des erreurs, parce que je ne dirais pas qu'il est vraiment parfait. Le seul parfait, c'est Jésus-Christ. Et nous, les humains, nous avons toujours des petites erreurs, mais nous devons accepter les critiques et à s'amender et à évoluer. Donc, c'est moi cette lecture que je peux donner vis-à-vis de ce mémorandum.
Honorable Kakota.
Et même l'honorable Tétika lui-même, il n'a pas su vraiment déterminer quelles étaient les erreurs ou les critiques, mais au moins on sait que c'est un homme, il a aussi des erreurs.
Honorable Kakota, au sujet de la conduite des débats, le G7 conclut en disant à un an et demi de la fin de la législature, les travaux de l'Assemblée nationale ne présentent plus un grand intérêt dans l'opinion. Est-ce que vous avez vous aussi cette impression-là?
Vous devez savoir que si on les dit ainsi, nous n'allons pas porter le mal sur une seule personne. Nous allons rentrer même dans la Bible d'une manière de la femme adultère à qui on voulait jeter des pierres. Quand on est arrivé devant Jésus-Christ, Jésus-Christ a posé la question, celui qui n'a pas commis un péché jette la pierre la première personne. Personne n'a jeté. Donc si aujourd'hui, cette histoire de l'Assemblée est qu'à un an et demi et que les travaux de l'Assemblée nationale ne portent plus d'intérêt auprès de la population, on ne peut pas jeter ça sur une seule personne. Là, à ce moment-là, nous tous, nous devons nous assumer. Parce que nous formons un seul corps, 500 députés, et le président de l'Assemblée nationale n'est qu'un député comme nous, que nous, nous avons placé là-bas. Donc, nous pouvons aussi nous assumer face à cela. Donc, ça ne sert à rien d'aller porter la pierre rien que sur une seule personne, que de porter la pierre sur nous tous. Alors moi, c'est de cette manière-là que je peux voir cette situation.
Alors, la majorité au Parlement a entériné les candidatures des deux membres de la CENI sans passer par une délibération à la plénière de l'Assemblée nationale, notamment en mettant en place une commission spéciale.
Oui, à cela, moi, je suis en train de m'étonner et je me retrouve quelque peu, si je peux dire, déçu. Parce qu'on revient sur l'exemple du pasteur Mulunda en 2010, mais on oublie qu'on a eu cette situation en 2012 avec l'installation du comité actuel démissionnaire de M. l'abbé Malumalu. Il y a eu jurisprudence. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on traverse de l'autre côté et on veut maintenant donner des leçons. Parce que quand il y a eu l'installation ou l'intérimement du comité ou de la commission de M. l'abbé Malumalu, ça s'est passé dans les mêmes conditions que ça vient de se passer maintenant du Corneille Nanga et de Tatitima, que je félicite en passant. Mais alors aujourd'hui, parce qu'on passe de l'autre côté et on veut prendre maintenant l'exemple de 2010, mais on oublie l'exemple récent, parce qu'il y a une jurisprudence. Donc nous sommes restés que dans la logique de la jurisprudence que nous-mêmes nous avons créée. Alors ça ne sert à rien de mentir le peuple. Disons la vérité et ne venons pas donner des leçons, parce que la jurisprudence est créée à l'intérimat de l'abbé Malumalu et sa suite.
Et le G7 accuse la majorité de débaucher de façon systématique ses membres et dénonce les pressions exercées aux membres de la CENI.
C'est bien de porter critique, c'est bien d'accuser. Mais il faudrait savoir que ce sont des responsables et ce sont des personnalités politiques ou des hommes d'État. Tout un chacun a sa façon de décider. C'est comme moi là, M. Kakwata, tel que je suis. On vient, on me propose. C'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre. Nous sommes dans une démocratie, on a besoin d'une voix. On vient, on me propose aujourd'hui, on me dit, M. Kakwata, peux-tu venir avec nous à l'opposition? J'ai le plein droit et l'impartialité et mon indépendance de décider. Oui, je vais ou je ne veux pas. Alors si on dit on débauche, pourquoi utiliser ce terme débauché? Parce que les personnes qui eux-mêmes, de leur propre volonté, se disent non, comme les autres ont basculé là-bas, mais moi je préfère de ce côté parce que de ce côté c'est mieux. C'est la personne elle-même, il faudrait quand même respecter, parce que quand on parle de débauchage, c'est comme si on ne respectait pas ces personnes-là qui se sont prononcées en disant je reste à la majorité présidentielle. Nous devons quand même les respecter. Alors ils ont décidé en leur âme et conscience, en toute indépendance. Donc pour moi le mot débauchage n'existe pas et il n'est pas approprié, c'est un terme que je peux utiliser, il n'est pas approprié parce que ce sont des personnalités que je respecte mais qui en leur indépendance disent que non, moi je ne préfère pas aller du côté où vous êtes parti, mais moi je préfère rester de ce côté. Mais c'est une majorité et c'est de bonne guerre, nous sommes dans une démocratie, on a besoin de tout le monde. Quand quelqu'un vient, on ne peut pas le rejeter. Et comme j'ai commencé en donnant l'exemple de la Bible, c'est de la même façon qu'aujourd'hui, je dirais encore, je suis dans une église, mais l'église, je me rends compte que l'église est en train de pratiquer des pratiques qui ne sont pas meilleures vis-à-vis à Jésus-Christ, mais et que moi, je me dis, je quitte l'église ou bien je veux ceci. c'est de bonne guerre.
Oui, honorable Kakota, lorsque les gens, comme vous le dites là, quittent librement leur parti politique ou se désolidarisent des présidents de leur parti politique, n'est-ce pas que cela a des implications sur le plan juridique? Pourquoi la loi n'est-elle pas appliquée? Parce que la loi dit que lorsque délibérément on quitte son parti politique et qu'on était élu, automatiquement on perd son siège. Mais pourquoi cette loi n'est pas appliquée? Il y a des experts qui pensent que la majorité cherche à faire appliquer la loi, en fait, les gouvernements, quand les gens qui sont concernés ne sont pas de la majorité présidentielle. Mais lorsque c'est des alliés, bon, on fait tout pour que la loi ne soit pas appliquée.
Je vais, merci beaucoup de cette question, mais c'est tout à fait très facile, je vais vous expliquer, dans le sens que ce n'est pas que les gens ont quitté délibérément leur parti politique. Ils se sont juste prononcés, tout en restant dans le parti, mais se disant « je ne bascule pas ». Et je veux prendre l'exemple, et c'est pourquoi je dis « il faut toujours aller des jurisprudences ». Et je salue la mémoire, ou non, même pas la mémoire, je salue l'indépendance de ces vaillants collègues députés, entre autres honorable Jean Siamboussa, nous avons vécu cela. Il a pris une position qui n'a pas plu au MLC. C'est pas pour autant qu'on a dit qu'il a quitté le MLC. Il avait pris une position à son temps qui n'avait pas plu au MLC. C'est pas pour autant qu'il a quitté le MLC. Jusqu'à ce jour, il est député, mais c'est le MLC qui a dit « je vous fais partir du parti, je vous fais quitter du parti ». Et c'est pour ça que l'honorable Jean Siamboussa, en passant, que je salue, que je respecte beaucoup, à son indépendance et sa façon de mener sa politique, et qui l'MLC lâche parti. Je n'ai pas vu quelqu'un dire « je quitte mon parti ». Mais tout simplement, ils se sont dit « moi, vis-à-vis de cette vision que le parti est en train d'amener, moi, je ne suis pas ». Parce qu'il n'est pas dit que quand on est dans un parti, on subit un dictat. Non ! On est aussi libre de dire non dans la vision de ce que le parti fait, mais en disant « je reste dans le parti ». Mais qu'est-ce que nous vivons maintenant? Ce sont les présidents des partis ou les autres qui les font partie de leur parti. Alors, merci. À ce moment-là, ces gens-là n'ont pas quitté délibérément leur parti, donc ils gardent leur mandat.
Merci, parce merci, honorable.
Je n'ai pas vu quelqu'un dire « je quitte délibérément le parti ».
Merci honorable professeur Alphonse Mahindo, professeur docteur plutôt en sciences politiques de l'université de Sorbonne Paris 1, enseignant à l'université de Kisangani. Quelle lecture vous faites de ces mémorandums du G7 au président de l'Assemblée nationale?
Bon, merci beaucoup monsieur Guimaté pour cette question. Je pense que le dépôt d'un mémorandum au président de l'Assemblée, ça fait partie de l'exercice d'une assemblée comme l'Assemblée nationale, où les gens sont là pour parler, pour débattre, pour discuter des questions politiques, des questions nationales, mais aussi des questions qui concernent l'institution elle-même. Donc ça va donc dans la normalité des choses. Maintenant, quant au contenu de ces mémorandums, c'est là qu'on peut discuter. Hein. Si vous voulez, notamment la question qui a été évoquée tout à l'heure de la direction des débats. Alors, il faut pas qu'on puisse se leurrer. Lorsqu'on dit que les présidents de l'Assemblée, ça doit être un arbitre neutre, qui doit être au milieu du village, non, on se trompe éperdument. Donc, on fait la politique, on ne comprend pas exactement ce que c'est la politique. Les présidents de l'Assemblée, en tant que président de la majorité, il est là, il a été élu et il est là pour appliquer une politique, et c'est la politique de la majorité. Et donc il fera tout pour que cette politique la triomphe. Alors, ce n'est pas un arbitre au sens où on attend que c'est quelqu'un qui est là pour être au milieu et ne pas trancher. Voilà. Donc il a ses convictions. Il a été élu pour une politique, pour une idée, et c'est pour ça qu'il va se battre avec sa majorité pour faire triompher ces idées-là. Ils ont un gouvernement qu'ils vont défendre et les actions de ce gouvernement-là. C'est ça la logique des assemblées modernes aujourd'hui.
C'est
pour ça qu'on parle d'ailleurs.
Oui. Professeur Mahindo, puisque le problème c'est cette double casquette, hein, même le président de l'Assemblée nationale, selon le professeur Lapica, l'a reconnu, le problème c'est le fait d'être à la fois président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle. Puisque c'est ça le problème, pourquoi ne pas dissocier ces deux fonctions? Pourquoi il ne peut pas rester président de l'Assemblée nationale uniquement, se charger de l'Assemblée nationale au lieu de gérer les deux, d'assumer les deux fonctions en même temps, parce que ça pose problème?
Non, même si il démissionnait de sa casquette de président de la majorité, ça ne changerait rien dans les faits, puisque même dans les grandes démocraties, les présidents d'assemblée qui dirigent, qui ont donc des majorités, ils défendent les idées de leur majorité. Il faut remonter à l'origine de l'assemblée parlementaire et ses évolutions modernes pour mieux comprendre ça. Il est là pour défendre les idées de sa majorité, et c'est pour ça que les assemblées aujourd'hui sont devenues des espèces de boîtes d'enregistrement pour les projets disons les lois qui proviennent du gouvernement. Ils deviennent la chambre d'acquiescement pour l'action gouvernementale et tout ça, parce qu'il y a une espèce d'identité entre l'assemblée qui est majoritaire et le gouvernement qui dérive de cette assemblée-là. Donc on ne peut pas attendre autrement. Même si on était en France ou on était dans n'importe quelle autre démocratie, il n'y aurait pas de changement sur ce plan-là. Donc il ne faut pas se leurrer. C'est ce qu'ils sont en train de dire.
L'entraînement de candidature des deux membres de la CENI n'a pas respecté la procédure. Le G7 se réfère à ce qui s'est passé lors de la validation de la candidature du pasteur Ngwe Mulunda, la mise en place d'une commission spéciale chargée de vérifier la conformité des candidatures aux critères légaux d'honorabilité, de compétences, d'indépendance. Professeur, vous ne pensez pas que la faiblesse de l'opposition dans ces pays, c'est sa minorité par rapport au pouvoir. Vous pensez que le G7 aurait obtenu gain de cause parce qu'on aurait mis en place cette commission spéciale?
Non, quand on est dans l'opposition, c'est parce qu'on n'a pas pu avoir une majorité pour gouverner. Donc c'est difficile de faire passer ces décisions, ces idées, sauf si on est dans un contexte comme l'Italie, où les votes, notamment des parlementaires, s'est fait au bulletin secret. Et donc là, c'est difficile, c'est la conscience des gens qui va jouer pour faire ça. Mais quand on doit voter à main levée ou quoi pour ces questions-là, chacun va voter dans le sens de son parti ou de sa majorité, sinon il sera vite vu comme celui qui tire dans son contre son propre camp. Alors, ceci dit, est-ce qu'il fallait mettre en place une commission ad hoc pour examiner la question? Non, ce n'est pas à nous de juger de ça, parce que ce n'est pas obligatoire pour l'Assemblée de pouvoir constituer des commissions ad hoc pour toutes les questions qui se posent à cette Assemblée-là. L'Assemblée a le droit d'examiner les questions qui se posent à elle et de voir l'opportunité ou non de pouvoir mettre en place une commission ad hoc. Alors, donc, je pense que pour ce cas-ci, l'Assemblée a jugé qu'en toute souveraineté, qu'il n'y aurait pas nécessité de faire ça. Mais cela peut poser aussi d'autres problèmes, on peut se demander, mais c'était quand même une question cruciale. Peut-être qu'on aurait pu inciter l'Assemblée à mettre en place une commission pour examiner la question. Mais on pourrait quand même se dire, évidemment, il fallait remplacer les membres de la majorité. Or, la majorité a désigné ces gens. Et donc, il n'y a pas lieu de faire beaucoup de débats pour tergiverser. De toute façon, ça aurait perdu le temps, puisqu'on avait, d'après ce que j'ai entendu, y compris les gens d'opposition et de la société civile qui criaient que la CENI était fragilisée, qu'il fallait parer au plus pressé pour remettre en place un comité, disons, la commission avec un président, un vice-président. Donc, peut-être que l'Assemblée a pris au mot. Voilà ce que je disais l'autre fois sur ces antennes, que l'opposition semble dans une espèce de léthargie, pêche par manque d'anticipation, par manque de proactivité, de préactivité. Donc elle subit les actions de la majorité au lieu d'anticiper déjà ce que pourrait faire l'autre et de contrer ses actions.
Oui, que répondez-vous, professeur, au G7 qui attribue les débauchages de certains membres de ces partis à la majorité présidentielle?
Bon, moi, quand j'écoute ça, ça m'amuse beaucoup. Hein. Ça m'amuse beaucoup quand j'entends ces discours-là, puisque, en fait, là, les G7 est en train d'expérimenter ce que les autres partis d'opposition ont vécu, ont subi pendant de longues années, l'UDPS, les MLC, dont les membres ont été débauchés. Alors, ceci dit, je voudrais quand même donner une anecdote. Quand vous êtes dans un couple, si votre partenaire vous trompe avec quelqu'un d'autre, avec une autre personne, au lieu de vous plaindre, de crier, de gémir ou d'aller jeter l'anathème sur la personne avec laquelle on vous a trompé, alors il faut vous demander pourquoi mon partenaire, ma partenaire m'a trompé qu'est-ce que je ne lui donne pas qu'il trouve ou elle trouve chez autrui, ouais, au lieu de se plaindre. Alors, à ce moment-là, vous pouvez trouver, chercher des solutions pour que, donc, on ne vous trompe pas, on ne vous quitte pas.
Oui.
Alors, ceci dit, donc là, je pense qu'il se pose aussi dans les partis politiques du G7, il pourrait se poser un problème de discipline et d'encadrement des membres. Si les membres finissent par quitter, il peut y avoir un défaut d'encadrement des membres, il peut y avoir aussi un problème de leadership. Est-ce que les gens ont suivi, ont adhéré dans ces partis pour suivre un leader qui leur présentait des idées, qui leur présentait une vision du monde,
ou
ont adhéré à ces partis juste pour espérer des postes ou des positions?
Merci, voilà. Professeur.
Ça, c'est la vraie question.
Professeur Lapika, nous avons une question pour vous qui vient de Kisangani.
C'était Lissungi Botomoito, je vous appelle depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Croyez-vous vraiment que cette dénonciation sera prise en compte alors que les députés de l'opposition l'ont déjà fait à plusieurs reprises et ça n'a rien apporté malgré les assurances reçues? Avec ce genre de déclarations, pouvons-nous dire que le gouvernement et même la CENI sont accusés pour rien sur tout ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays actuellement? Et que les peuples congolais et la RDC sont trahis par les gens qui les ont élus pour les protéger et les défendre. Et si cette dénonciation n'est pas prise en compte, qu'est-ce que ces députés G7 feront que ceux de l'opposition n'ont pas fait?
Oui, professeur Lapika.
Merci, Guy. Mais je vais répondre à notre
auditeur,
mais je voudrais réagir très rapidement au propos de mon collègue qui est intervenu.
Kakwata.
Je suis surpris par son approche. Lorsqu'il dit que le président de l'Assemblée, puisqu'il est de la majorité, il ne peut défendre que les positions de la majorité, mais c'est extrêmement dangereux.
Ça a été fait, analyse est faite par le professeur Maïndo.
Oui, mais c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? C'est parce que le Parlement a pour mission d'élaborer les lois. Imaginez-vous un seul instant que si toutes les lois devaient épouser le point de vue de la majorité, mais ce pays serait comment? Mais c'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas accepter cela. Deuxièmement, lorsqu'il dit que le débauchage, c'est la faute des partis politiques eux-mêmes. Mais non! Mais nous savons que dans cette opération, il y a des gens à qui on demande de démissionner et d'autres à qui on demande de rester. Mais pourquoi ce poids de mesure si c'était une démarche normale?
Et pourquoi le G7 ne saisit pas la justice pour que la loi soit appliquée?
Mais nous ne sommes pas encore à cette phase-là. Nous sommes allés voir le président de l'Assemblée. Alors je réponds à monsieur qui vient de Kisangani. Oui, non, ce n'est pas une dénonciation. Je vous ai dit au départ que j'étais mal à l'aise de réagir à un entretien que moi je connais comme privé. C'est pas une dénonciation. C'est une contribution pour que le président de l'Assemblée améliore la gestion de débat au sein de l'Assemblée. Mais et lui-même a reconnu qu'il y avait des observations qu'il allait prendre en compte. C'est pas une dénonciation. Donc, nous ne pouvons pas, à ce stade, dire que nous sommes en train de dénoncer le travail du président de l'Assemblée. Non, nous sommes en train de lui apporter notre réaction par rapport à la gestion de l'Assemblée. Et cette observation doit lui permettre d'améliorer la gestion de nos débats.
Honorable Lapika, oui. Au sujet du dialogue qui est envisagé, le G7 dit qu'il ne peut pas participer à ce dialogue parce que c'est un dialogue sans objet.
Oui, mais écoutez, Monsieur Guy, avant on pouvait se poser la question, mais pourquoi le G7 ne veut pas aller au dialogue? Mais maintenant, vous-même, vous avez suivi. Quel est l'objet du dialogue? Le calendrier électoral.
Les questions liées au processus électoral.
Processus électoral. L'objet du dialogue, c'est quoi? C'est le financement des élections. L'objet du dialogue, c'est quoi? C'est la sécurisation des élections. Vous pensez qu'on a besoin d'un dialogue pour ça?
Alors,
mais ce sont des compétences dévolues, soit au gouvernement, soit à l'Assemblée, soit... Mais Pourquoi faire?
Nous avons une question qui vous est adressée. Hein, oui. Il vient de l'honorable Dieudonné Mwenze, qui est un des communicateurs de la majorité présidentielle. Il dit, outre toutes ces analyses sur les responsabilités, reconnaît-il que, donc ça, il parle de vous, reconnaît-il que notre processus électoral est bloqué? Si oui, quelle alternative propose-t-il présentement pour les débloquer et éviter les chaos au pays? Et en dehors de ce dialogue politique, n'est-ce pas là une stratégie réellement suicidaire que le G7 planifie pour la RD Congo?
Eh bien, le dialogue, plutôt le processus est bloqué volontairement. Parce qu'il suffit de demander à l'Assemblée nationale qui est en session budgétaire. Monsieur ou honorable député, eh bien, mettez à la disposition du gouvernement un budget d'$1 milliard. Et il faut un dialogue pour ça. La commission ECOFIN peut voir où il va chercher le milliard de dollars pour que les élections démarrent ou le processus démarre dès demain.
Et donc vous pensez que tout est lié à la volonté politique?
Mais oui, pour moi, tout est lié à la volonté politique et rien d'autre.
Merci. Honorable Kakwata, il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Goma, au nord qui vous.
Mumbere Mbakula à Goma. Pourquoi la majorité cherche à s'approprier les élites des partis politiques qui ne sont plus membres de cette majorité? La loi est claire à ce sujet. Si les élites restent dans la majorité, ils quittent leur parti et laissent place au leur AAA. C'est constitutionnel.
Oui, honorable Kakwata.
Oui, merci beaucoup. J'ai eu à l'expliquer. Les élus n'ont pas quitté leur parti politique. Les élus sont encore dans leur parti politique, mais tout simplement, j'ai dit que le parti politique n'a pas de dictat. Ce n'est pas la dictature. Nous sommes libres de se prononcer dans un parti. Et à ce moment-là, celui qui dirige le parti doit comprendre aussi les désidératas des autres. Alors, ils n'ont pas cité, mais tout simplement, ils ont dit, du côté là, vous avez basculé, moi, ça ne me plaît pas, je reste de ce côté. Mais ça veut dire que celui-là qui dirige le parti, au lieu de faire comprendre, de dissuader ou de persuader la personne, il préfère le chasser et le mettre en publicité. Donc, la personne n'a pas cité le parti, ça c'est un, et là, c'est là, quand il le chasse, la personne court maintenant son mandat librement comme un indépendant, que la majorité, parce que nous sommes dans une démocratie.
On aura Kakwata?
Que dire à cela.
Oui, on aura Kakwata. Au sujet du dialogue qui est envisagé, au sujet du dialogue national qui est envisagé, vous avez suivi l'honorable Lapika qui estime que c'est un dialogue sans objet et que tout serait lié à la volonté politique.
Oui, au sujet du dialogue, il faudrait que nous puissions comprendre. Je me rappelle encore sur les antennes de Radio Capi. Vous m'avez posé cette question sur le dialogue. Je vous avais déjà dit que le dialogue a déjà commencé. Parce que tout ce qui est en train de se passer jusqu'à ce jour, c'est le dialogue. Ce qui reste, c'est formalisé autour d'une table. C'est tout ce qui reste. Mais le dialogue a déjà commencé. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui à ce jour. Nous sommes en train de répondre aux désidératas de tout un chacun pour que nous puissions formaliser une fois pour toutes. Mais soyons conséquents et nous devons bien expliquer à la population qui nous écoute, qui nous a mandaté. Parce que c'est toujours un principe, la population est mon patron. Et soyons conséquents. Qu'est-ce que nous devons expliquer à cette population? À ce jour, j'ai entendu le collègue Lapika de dire, non, il suffit qu'on dise « mettez à la disposition ». Est-ce que le travail d'un député ou le mandat d'un député reçoit-il des ordres? C'est impératif. Donc on n'a pas à nous dire « mettez ». Il est député comme moi, donc nous devons nous battre pour dire pour ce dialogue. Parce que j'avais dit, c'est nous, autorité budgétaire. C'est nous qui devons maintenant décider. Alors pour maintenant cette session, devons-nous mettre X montant pour les élections? Ça, c'est nous, députés, donc on n'a pas des ordres de recevoir depuis que c'est ça. Ça, c'est un. Et puis, de deux, soyons réalistes de notre budget, de la mobilisation de recettes, soyons réalistes. Devons-nous expliquer cela à la population? Ça, c'est deux. Trois, le dialogue qu'on appelle, il n'est pas dit que dans ce dialogue-là, il y aura aussi un dictat. On dit les résolutions du dialogue, c'est par consensus. Donc, quand quelqu'un vous appelle à la table, ne répondez pas de loin. Venez autour d'une table, sachez dire non. C'est
merci.
Ça, être un homme dans la vie.
Merci.
Sachez dire non en face. Donc venez d'abord à la table et avec votre position pour dire non, voilà.
Merci,
non,
honorable.
Mais de loin, vous répondez non, on ne tiendra pas.
Ça. Merci, honorable. Professeur Maïndo, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu, au sud Kivu.
Robert Bame de Bukavu, au sud Kivu. C'est bien que le député du G7 adresse le memorandum, mais ce dernier ne suffira pas à résoudre les problèmes qu'il pose. Je pense que pour l'efficacité de leurs actions politiques, il serait mieux que les députés du G7 montrent désormais des stratégies beaucoup plus rationnelles pouvant chaque fois leur permettre de contrecarrer les desseins des manœuvres politiques de la majorité
au lieu de se limiter à se lamenter inutilement au sein de l'Assemblée nationale.
Oui, professeur Maïndo, vous avez commencé à le dire que le G7 pêche par manque d'anticipation.
Oui, tout à fait. Je pense qu'ils reproduisent les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs dans l'opposition. Ils n'anticipent pas. Je ne sais pas à quoi ils s'attendaient quand ils ont quitté la majorité présidentielle. Ils s'attendaient à ce qu'on leur fasse des cadeaux, quoi. On est en politique, et en politique, on ne se fait jamais des cadeaux. Et chacun doit pouvoir imaginer les stratégies. On est comme dans ce qu'on appelle la théorie des jeux. On a différents acteurs qui ont des pions, et chacun joue, et il faut anticiper les prochains coups de son adversaire pour le contrer. Sinon, on se fait battre. Et là, malheureusement, je suis d'accord avec l'auditeur, c'est ce que font les gens du G7. Ils sont là, en train de se lamenter, au lieu d'anticiper. Alors, peut-être que c'est l'occasion aussi pour répondre un tout petit peu au prof Lapic qui disait tout à l'heure que, imaginez que les présidents de l'Assemblée restent comme ça, toutes les lois, que deviendrait ce pays? Il défend la majorité présidentielle. Non, c'est justement... C'est une observation qui a été faite dans les grandes démocraties. C'est pour ça qu'il y a un certain monsieur qui s'appelle Kelsen a inventé ce qu'on appelle la théorie de la constitutionnalité des lois pour contrôler si les lois qui sont votées par une majorité donnée, et ces lois-là sont conformes à la constitution qui est, si vous voulez, la loi fondamentale. Et donc, parce que chaque législature qui vient avec une idée, avec la politique pour laquelle elle a été élue, donc va vouloir mettre en place, traduire dans les lois. Et pour ça, il faut qu'il y ait donc des juges qui viennent vérifier en toute indépendance ces mesures qui sont prises. Oui.
Oui. Comment vous analysez les points de vue des uns et des autres au sujet de ce dialogue qui est envisagé? Le professeur Lapica pense que c'est un dialogue sans objet. Le député Kakwata lui pense le contraire. Comment vous analysez cela? Ça sera sur votre conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Oui, pour moi, je pense que c'est un dialogue qui n'a pas du tout d'objet. Je ne vois pas l'opportunité de ce dialogue, puisque les questions qui ont été évoquées là, c'est des questions tout à fait techniques qui demandent simplement que la CENI puisse jouer, faire son travail, faire un calendrier électoral, dire quels sont les moyens qu'il nous faut et demander ça au gouvernement et à l'Assemblée de doter le gouvernement d'un budget pour faire ça. Donc, on n'a pas besoin de convoquer un dialogue pour ça. Puisque le dialogue en question va encore entraîner d'autres conséquences, notamment sur le plan budgétaire et autres qu'on se plaint ne pas d'avoir.
Merci.
Voilà, pour moi, je suis d'accord avec le prof Lapica sur la question.
Merci.
Il n'y a pas d'opportunité pour ce dialogue-là.
Merci, professeur Lapica. Votre conclusion, le G7 pêche par manque d'anticipation. Ça sera sur votre conclusion.
Bien, le G7 est dans une position, je dirais, défensive. C'est normal. Lorsqu'on reçoit des coups, qu'est-ce qu'on fait? Il faut réagir. Hein? Nous recevons des coups de la part de la majorité, mais il faut nous réagissons. Le collègue Maïnda disons que à quoi nous nous attendions? Nous nous attendions à un jeu franc. Mais lorsque le jeu n'est pas franc, qu'il est piégé, qu'il est manipulé, mais en ce moment-là, il vous met dans une position de faiblesse. Mais nous allons désormais répondre coup par coup, parce que nous savons maintenant à qui nous avons affaire.
Ça veut dire que
ça veut dire que aujourd'hui, dès que nous constatons qu'il y a des discours manipulateurs, nous allons les dénoncer et nous allons rester vigilants pour que la cause du peuple soit défendue.
Merci, merci, honorable Kakwata, votre conclusion.
Oui, moi, ce que je demande, c'est que quand quelqu'un vous arrête, il faudrait d'abord arriver à la table et savoir dire non en face si vous n'êtes pas d'accord. Mais si vous êtes d'accord, vous évoluez. C'est tout ce que moi, je peux donner comme conclusion, c'est de le dire de loin. Là, c'est fouillé. Donc, il faut venir à table parce que je me rappelle de la CENI qui avait publié le calendrier qui a été refusé de tout le monde.
Merci, honorable Kakwata. Merci, c'est la fin de cette émission. Sylvain Matundu était à la technique. Merci. Merci à toute l'équipe Dialogue entre Congolais, Kelly Kouté, Berry Franklin Luchaka, sous la supervision de Pelle Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Okapi.